mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Suite de la première partie. Pages 45 à 51. Dans les jours suivants, quelques zones d'ombre subsistaient pourtant. Convaincue par l'enseignement catholique qu'un purgatoire l'attendait, elle pensait au châtiment de cet enfer en demi-teinte où s'acquitte le prix de l'amnistie. Ce paradoxe tiraillait Thérèse. Le lumineux pardon et la grâce que lui avait accordé Dieu, la conversion et la paix qu'elle avait goûtée, tous ces éclats de lumière ternis sous la grisaille d'une absolution qui n'excluait ni châtiment ni expiation. Les traits du visage trahissant son inquiétude, elle consulta ses amis de Nantes. Catégorique, ils lui apprennent que la Bible n'évoque aucun autre lieu que la croix de Christ pour un absolu pardon. Que toute l'Écriture sainte se focalise sur la victoire entière et définitive acquise par le sang de Christ et lui enseigne cette brève leçon d'histoire. La réforme protestante, débarrassée de tous les artifices dont a été capable la hiérarchie catholique pour imposer son pouvoir, ne soumet sa confiance qu'à l'Écriture seule. La Bible nous apprend que l'homme est sauvé par grâce et que la foi est un don de Dieu. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Sola scriptura, sola fides, sola gratia. Martin Luther, 1483-1546. Ce qui remettait en cause à l'époque de la Réforme les fondements sur lesquels reposait la puissance du clergé. Le Concile de Trente, concile de la contre-réforme justifié par un antiprotestantisme, dont l'acte final est signé le 4 décembre 1563, développe entre autres des notions de mérite du salut, de l'existence du purgatoire, du culte des saints. Le concile donne à la tradition la même valeur qu'à la Bible. Une nouvelle profession de foi est adoptée qui dicte l'acceptation des traditions ecclésiastiques et s'achève par un serment d'obéissance au pape. Le 24 mars 1564, le pape publie l'index de Trente, c'est-à-dire la liste des livres interdits aux catholiques. Parmi tous les écrits présents dans l'index, la Bible avec ses adaptations, ses commentaires et les études bibliques est de loin le livre le plus censuré. Les éditions de la Bible en latin, en grec, dans les langues vulgaires en tout ou en partie, ainsi que des commentaires bibliques, figurent nombreux dans le premier index romain. Plusieurs raisons justifiaient ces interdictions aux yeux des censeurs. Le contact direct avec les sources de la foi pouvait provoquer des remises en question et altérer la doctrine, la morale et l'organisation de l'Église. Jésus Martinez de Bujanda et Marcella Richter, Index Librorum Prohibitiorum 1600-1966, Droz 2002, page 41. Pour asseoir son autorité et conserver ses privilèges, la hiérarchie catholique entretient l'ignorance des croyants en imposant des notions qui ne trouvent leur fondement dans aucun des textes du canon biblique dont elle a longtemps censuré la lecture. Il n'y a d'autre fondement de la puissance que l'illusion des misérables. Georges Bernanos, Journal d'un curé de campagne, Pocket 2004, page 201. Son sourire se détendit pendant qu'elle se décidait à une volte-face radicale. Trompée par une doctrine obscure, qu'il a fourvoyé dans une impasse en lui imposant le joug de croyances vaines, elle refusait désormais de se rendre à la messe. En l'apprenant, la supérieure de la maison de retraite, furieuse, se mit à les pieds, jusqu'à poster une sœur devant la porte de sa chambre pour comptabiliser ses allées et venues, vérifier si oui ou non elle se rendait à la messe. Une des rares sœurs qui lui gardait sa sympathie lui dit un jour: « Tu sais, Thérèse, la mère supérieure est très ennuyée à ton sujet, parce que tu as bien changé. »« Qu'elle dorme sur ses deux oreilles, » lui répond Thérèse, « je suis en paix avec le Seigneur. » Cependant, on scrute le moindre de ses mouvements. Le bruit dans les couloirs du froissement d'étoffe des longues robes des sœurs la suit en permanence. Regards inquisiteurs, suspicion. Partir d'ici, mais comment ? En descendant du train, Thérèse humait le soir qui caresse la ville de fraîcheurs océanes. Ses amis l'accompagnèrent en train jusqu'à Cognac, où ils confièrent Thérèse à une famille de leur réseau d'église. En quittant la maison de retraite, Thérèse avait refermé la page d'un obscurantisme religieux dont elle se débarrassa comme d'un pesant et poussiéreux fardeau. Arrivée dans cette famille qui l'accueillait, ils sont restés un moment à parler au salon. Ils habitaient en périphérie de la ville. Les amis de Thérèse devaient revenir à Cognac où les attendait pour cette nuit le pasteur, avant qu'ils ne prennent le train pour Nantes. Lorsqu'ils suggérèrent qu'il était temps pour eux de partir, personne ne bougea. Chacun restait immuablement apesanti dans l'irrésistible confort de son fauteuil, jusqu'au moment où la dame, s'arrachant des profondeurs de son apathie, dit en soupirant « Oh, je vais vous conduire !» Ils sortent alors prendre la voiture et Thérèse l'entendait marmonner à voix presque inaudible « Il faut que je sorte le soir pour les reconduire. C'est pas rien des gens comme ça. » Et ça l'avait choquée, elle, jeune convertie, ce mépris pour monsieur et madame le boulanger. Passant de l'espoir à la déception, elle voulait partir avec eux. « Où suis-je encore tombée ?» pensa-t-elle. Durant son séjour, Thérèse s'occupait du ménage, du repassage et de l'élevage des volailles dont il faisait commerce. Elle avait l'impression d'habiter chez des personnes dont le comportement ne se distinguait en rien des autres. Pourtant, à l'assemblée le dimanche, les apparences étaient sauves, pour le temps que durait le culte. Mais à peine rentrée dans la voiture, la fille et la mère se disputaient. L'enseignement de la prédication, ce courant d'eau pure, cristalline, où s'abreuvait la foi, se tarissait. En un instant, et Thérèse n'imaginait pas la vie chrétienne se résumer à ce spectacle carnavalesque. Certains soirs, ils se réunissaient pour prier en famille. Les yeux fermés, la tête légèrement penchée, la mère avait joint ses mains, offrant à qui pouvait la voir la grimace d'une pieuse humilité. Elle priait, énumérant un à un tous les griefs qu'elle reprochait à sa fille. Quant à elle, puisant dans le dictionnaire des compassions, elle demandait au Seigneur qu'il allège sa mère de tous ses défauts qui alourdissaient sa marche spirituelle. Le père n'ajoutait pas sa voix à ce duel masqué pour la simple raison qu'il n'avait pas la foi et se moquait des simulacres. La commedia dell'arte que jouaient ces femmes, tendre à l'église, féroce à domicile, rebutait Thérèse. Leurs propos acerbes, cruels, mordants, dévoilaient leur nature. Quand le masque tombait, une fois les volets clos, Thérèse n'éprouvait aucune envie de se mêler à cette joute déguisée. Mais le socle de sa jeune foi se fissurait, et dans le secret de sa chambre, elle criait au Seigneur. Sa détresse devint soupir, sa plainte, accusation. « Seigneur, tu savais ce qui allait m'arriver ici. Pourquoi m'y as-tu envoyé ?